le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce qu'on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse inapproprié.
Qui continue à tout s'accaparer, donc à ne pas laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire, en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires. Et en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les gens qui se déclarent paysans, la tête haute.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et sur le 102.2 et c'est l'heure des paysannes et paysans dans la lutte des classes. Aujourd'hui, et ben, pas mal d'infos du côté des luttes paysannes. On va parler notamment d'une manif qui a eu lieu le 17 avril en Ardèche. On va parler de la lutte des habitants et habitantes du Val de Souze en Italie avec une action de soutien. Voilà, et deux, trois autres infos. Mais d'abord, on va parler de l'agriculture industrielle au Maroc. On va écouter un entretien avec Hamid Fatmi, un délégué syndical qui a été licencié en 2010. Donc pour expliquer un petit peu, en fait, donc au Maroc, comme dans d'autres régions du monde, il y a une agriculture industrielle lourde. Et la plaine du Sousse, au sud du pays, est connue pour ses grandes étendues de serres maraîchères, d'où partent des camions entiers de légumes vers les marchés occidentaux. Dans les environs d'Akhla, à 1200 km de la plaine du Sousse, plusieurs grands groupes agro-exportateurs sont installés pour anticiper l'assèchement des ressources en eau du Sousse. Parmi eux, des groupes français et aussi des groupes appartenant à des dignitaires marocains, dont Tariq Kavage, le maire socialiste d'Agadir. À la ferme de Tinigir, le patron est un encore plus haut dignitaire marocain, puisque c'est Mohamed VI, donc le roi du Maroc, qui est à la tête d'un holding royal présent dans la plupart des secteurs économiques du pays. La filière agricole de ce holding porte le nom de domaines agricoles et était connue anciennement sous le nom des domaines royaux. Donc là-bas, à l'été 2010, 150 ouvriers agricoles sont licenciés en trois vagues successives de la ferme de Tinigir à Dakhla. Sous les serres de cette ferme maraîchère, donc, sont cultivés des légumes biologiques et non biologiques destinés quasi exclusivement à l'exportation. Ils travaillent aussi des centaines d'ouvriers et ouvrières qui viennent de tout le pays pour gagner leur vie. Le témoignage de Hamid Fatmi, délégué syndical licencié donc lors de cet été 2010, permet de prendre la mesure des conditions humaines et sociales dans lesquelles vivent les ouvriers de l'agriculture industrielle marocaine. Dans une certaine mesure, ce témoignage pourrait être celui de n'importe quel ouvrier agricole du Sousse, du Garb ou de Dakhla. Mais une dimension supplémentaire s'ajoute à cette histoire. Quand le patron est à la tête d'une monarchie exécutive quasi absolue, la lutte relève de l'impossible. Et pourtant, à force d'obstination et poussé par le vent de la liberté qui a soufflé dans cette région du monde, Hamid Fatmi et ses camarades ont réussi à arracher des indemnités à l'administration des domaines agricoles. Ils sont rentrés chez eux fin mars 2010. Donc on s'écoute tout de suite ce reportage.
Ana Fatmi Hamid.
Je suis Fatmi Hamid de Khenifra, dans le Moyen Atlas. Je suis ouvrier à Dakhla, dans le Sahara, au domaine royal, dans une ferme qui s'appelle Tinigia. Nous voulons revenir terminer notre sitting devant l'administration des domaines agricoles pour que notre voix arrive au plus haut niveau, si possible à notre seigneur, pour qu'une commission d'enquête soit faite sur notre licenciement de 150 ouvriers. Un licenciement arbitraire dans lequel il y a 4 délégués des ouvriers.
«
J'ai commencé à travailler avec eux en 2007, dans l'agriculture. On faisait des poivrons, des tomates, des melons. À cette époque, on n'avait aucune protection sociale, pas de congé. On ne connaissait rien à nos droits. Jusqu'à qu'on remarque qu'ils mettaient dehors les gens qui avaient 5, 7 ou 10 ans d'ancienneté. Et puis ils ont commencé à nous dire des paroles du genre « travaille ou dégage ». On a senti qu'on courait à notre perte. Alors on a créé un bureau syndical et à partir de là, on a commencé à avoir un peu plus de liberté de parole. Par exemple, au début, on ne buvait que l'eau qui sortait de la terre, avec laquelle ils irriguaient. Et cette eau est mauvaise. On a vu des gens là-bas qui souffraient des reins. Et effectivement, ils ont fini par nous ramener de l'eau. Ensuite, on s'est battu pour la protection sociale. Ils ont fini par nous déclarer un peu, par nous donner des bulletins de paye, des congés, des cartes de travail. Et puis, nous avons demandé une amélioration des chambres. Ces chambres faisaient 4 mètres sur 3, et nous étions 6 personnes dedans. Dans ces chambres, il y avait aussi des fours et des bouteilles de gaz pour la cuisine. Bref, ils nous ont promis qu'ils allaient régler ça et on est resté à attendre. Les femmes sont arrivées après la création du syndicat. Ils les transportent dans des camions. Pour moi, dans ce que je connais, ces camions sont réservés au transport du bétail. Comment ils veulent qu'un ouvrier, qui va se tenir debout pendant 2 heures de temps dans un camion, travaille bien le reste de la journée? Et en plus, ils ne lui demandent pas seulement qu'il fasse sa journée de travail tranquillement, il faut qu'il remplisse une quantité de travail déterminée, ce qu'ils appellent les normes. Le seul souci de l'employeur là-bas, c'est combien de remorques il va sortir par jour. Le jour où ils veulent traiter les cultures, si quelqu'un ne veut pas traiter parce qu'il sent mal ou parce qu'il a du mal à respirer, ils vont chercher quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le traitement. Les ouvriers restent sur place et ils leur passent les traitements dessus, sans protection, sans rien. Je suis le fils d'une famille pauvre. Je suis allé à l'école jusqu'à la dernière année de primaire. Mon père était paysan. Il pêchait aussi dans le fleuve Oumrebia, qui passe à Renifra. Bref, nous étions une famille pauvre. Nous étions 3 fils et une fille. Un de mes frères est mort, et mon père aussi. Mon autre frère est parti à Agadir pour travailler dans l'agriculture. J'ai vendu le troupeau que nous avait laissé mon père et je l'ai ramené à mon frère qui voulait migrer clandestinement à partir de Sidi Ifni. Sa tentative de migration a échoué. Bref, il a acheté par la fenêtre l'argent de la famille, un peu moins de 1 000 euros. Je suis resté avec lui pendant 1 an à Agadir pour travailler. De là, je suis parti à Dakhla. J'ai entendu parler des domaines. On a entendu dire qu'il y avait une ferme royale du roi. C'est comme si on travaillait chez son propre père. Dans les régions comme celle de Renifra, quand tu dis par exemple à quelqu'un qui va travailler chez le roi, ça le rend heureux. Le roi, il ne le voit qu'à la télé. À partir de là, j'ai commencé à travailler avec eux jusqu'à ce qu'on crée un bureau syndical. Les ouvriers se sont mobilisés, ils ont fait des élections et ils m'ont élu pour que je les représente. Et de là, j'ai commencé à pratiquer avec eux le travail syndical, même si le directeur de la ferme a essayé de me corrompre. Au début, il a voulu me donner 7 000 euros et un billet d'avion pour m'envoyer ailleurs, mais j'ai pas voulu. Un samedi matin, le 10 juillet 2010, nous allions au travail, à 6h du matin. On a vu des gendarmes, le délégué du travail, l'inspecteur du travail, un huissier de justice, le conseiller juridique de Mohamed VI. Ils nous ont tous regroupés dans un bloc et nous ont dit que le travail qu'on faisait jusqu'à présent, ils sont venus pour le changer. À chacun, ils ont annoncé une quantité de travail qui dépasse l'entendement. Les ouvriers ont dit que c'était trop. C'est pour ça qu'ils nous ont sortis. Ils nous ont dit qu'on refusait le travail. Mais nous, on refusait pas le travail. Nous sommes en tout 150 ouvriers licenciés, en groupes différents avec des raisons différentes. Aujourd'hui, il y en a qui sont allés travailler dans d'autres fermes et il y en a qui sont revenus à Tinguir par les boîtes d'intérim. Le jour où ils nous ont jetés, ils ont ramené les gendarmes et ils ont jeté nos affaires dehors. Il y avait les autorités. Franchement, un travailleur auquel on jette les affaires dehors. Est-ce qu'il va se battre contre le Marsen? Les gens sont faibles. Si nos frères avaient protesté, ils auraient pu être accusés d'être du Polisario. Ils sont tout à fait capables de faire ça. Moi-même, je suis allé au tribunal juste pour déposer une plainte. Et le président du tribunal m'a dit que si je continuais, j'allais finir en prison. Je suis allé chez les trois avocats de Dakhla qui ont tous refusé de me défendre. Au gouvernorat, pareil. Tout le monde s'est retourné contre nous. Tout le monde. Mais c'est le Marsen, ça. Est-ce que tu vas aller te plaindre du Marsen chez le Marsen pour que le Marsen te donne les droits que le Marsen te refuse? C'est pas possible. J'ai fait un sitting pendant 6 mois à Dakhla devant la délégation du travail. Je n'ai obtenu aucune rencontre. Je suis venu ici à Casablanca, j'ai essayé de faire un sitting. Je suis revenu chez le gouverneur de Dakhla. Il m'a dit, non, tu vas pas revenir à Tinguir. Tu peux travailler dans la pêche ou avec des sociétés d'intérim. Dans ma tête, j'ai fait le tour d'une question. Si je vais travailler dans une autre société ou une autre usine, et si mon nouvel employeur sait que j'ai travaillé chez le roi et qu'ils m'ont jeté dehors? Si je vais réclamer d'être déclaré ou d'être assuré, ils vont me dire, tu as travaillé chez le roi et il t'a pas donné tes droits. J'ai raison ou pas? Au début, nous étions environ 40 personnes. L'occupation a duré et nous ne sommes plus que 12. On fait ça pour que la vérité soit montrée à tout le monde. Que de l'argent est rentré à Tinguir le jour où ils ont voulu nous licencier et qu'ils l'ont donné à la délégation du travail et aux demandes de la CDT. Et ensuite, ils ont jeté les travailleurs dehors. Ça, je l'ai vu de mes yeux. C'est ça ce que ces gens ont fait. Le jour où ils nous ont jetés, celui qui nous a jetés m'a dit, c'est le roi qui veut vous licencier. Je me dis, peut-être que c'est vrai. Mais quand j'y réfléchis, je me dis que c'est pas possible. Est-ce que le roi va jeter des enfants du peuple dehors? Moi, si je crois à ça, si quelqu'un me demande pourquoi je suis sorti de Tinguir, je vais lui dire, c'est le roi qui m'a mis dehors. Et ça va commencer à se dire dans tout le pays.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et c'est toujours les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Donc on vient d'écouter un entretien avec Hamid Fatmi, un délégué syndical marocain licencié. Donc c'était un entretien réalisé par Hinta Issaoui Benani. Voilà, et puis pour en savoir plus un peu sur ce sujet, notamment sur l'agriculture industrielle au Maroc, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle La bio entre business et projet de société, donc aux éditions Agone sous la direction de Philippe Baquet, et il y a un chapitre consacré à la bio industrielle pour l'exportation au Maroc. Et puis sinon un autre bouquin là-dessus qui s'appelle Le roi prédateur de Catherine Gracier et Eric Laurent qui est sorti aux éditions du Seuil. Et puis on peut ajouter aussi que pour agir, enfin c'est toujours bon à savoir, les marques distribuées par les groupes qui sont installés à Dakhla et qui du coup exploitent leurs salariés de cette manière. Il y a les domaines agricoles ou les domaines tout court. Et puis il y a aussi les marques Idil, GPA et Asoura. Donc si jamais. On va passer à la suite maintenant. On va revenir sur le 17 avril dont on a beaucoup parlé ici. Entre autres parmi toutes les actions qu'il y a eu dans la région et dans le monde, en Ardèche, à Saint-Julien-en-Saint-Alban, il y a des dizaines d'hectares qui sont menacés par un projet de centre européen des nouvelles technologies. Un projet un peu mégalo dans un petit village ardéchois qui va sacrifier des hectares de bonnes terres en fond de vallée pour mettre des magasins, des pseudo-employeurs dont on ne sait pas grand-chose, des logements, des parkings. Le 17 avril, il y a eu une action sur ces terres à l'appel de la Confédération Paysanne d'Ardèche, du collectif de défense de ces terres. qui a été constitué pour l'occasion il y a déjà plusieurs années. Donc voilà, bah on va écouter un petit reportage sur cette journée là-bas, tout de suite.
Paysans du mouvement des sans-terres au Brésil se faisaient assassiner par des tueurs à la solde de gros propriétaires terriens. Donc la Via Campesina, qui est un mouvement international d'organisation paysanne auquel adhère la CONF, a décidé de faire de cette journée la journée mondiale des luttes paysannes. Et cette année, on a tous décidé de lutter activement contre les accaparements de terres et de faire de cette journée une journée symbolique contre les accaparements de terres. Aujourd'hui, nous, on se retrouve à Saint-Julien-en-Saint-Alban, résistance symbolique contre le bétonnage des terres. On a un champ derrière nous qui va se transformer en rond-point. Voilà. Donc la Confédération paysanne appelle à se mobiliser pour lutter contre ce bétonnage des terres et dire que la terre doit rester à vocation alimentaire, surtout des belles terres comme on voit derrière.
Oui, je m'appelle Hugues Giraudan, j'ai plusieurs activités, dont notamment je m'occupe de 7-8 hectares de terre qui sont depuis la 5e ou 6e génération dans la même famille, et où moi j'ai vu de mes propres yeux ici toutes le genre de culture. J'ai vu cette terre cultivée en long là avec 6 paires de bœufs et un cheval devant, et donc les labours de cette terre duraient pratiquement pour toute la terre durait pratiquement 3 semaines, et après ils revendaient les bœufs, ainsi de suite. Maintenant c'est vrai que la terre étant devenue ce qu'elle a été, et ces 7 hectares ne permettraient plus à une famille de vivre, parce que les temps ont changé, on est allé vers le productivisme qui permet plus une culture de subsistance, mais malgré tout, dans la famille, on tient à conserver ces terres pour cultiver ne serait-ce qu'un peu de blé, pour comme tout homme doit sentir quelque part quand même une âme de paysan pour pallier à nos mesures, à ce que les gens ne crèvent pas de faim. Donc dans l'idée, après, il y a déjà eu un développement d'un pain qui est vendu par le boulanger du village, donc qui s'appelle le pain du coin, chaque année. Ou alors je crois qu'il en fait 3 fois par semaine. Il fait une vingtaine de baguettes qui partent très bien, qui est donc la filière la plus courte possible, parce que c'est du pain de Saint-Julien vendu à Saint-Julien. Du blé qui a poussé à Saint-Julien, vendu en pain à Saint-Julien. Voilà, dans l'idée, il faudra bien y arriver de toute façon. Et voilà pourquoi on s'oppose fermement à ce projet qui est essentiellement un projet immobilier et qui se découvre petit à petit. Là, la mairie est en train d'en parler et fait le plus. Et là, on découvre qu'on va avoir, juste sur ces terres cultivables, 2000 places de parking, 425 logements démesurés. On ne sait pas qui vient, on ne sait pas. C'est une escroquerie avec la complicité des élus qui sont partie prenante et qui ont mis le doigt, le bras, et qui savent même plus comment s'en sortir. La plupart voient que c'est une magouille, mais maintenant ils ont mis le bras et ils savent plus faire. Et donc en tant que propriétaire, on peut aussi lutter jusqu'au bout, lutter jusqu'à l'expropriation, parce qu'il faudra prouver quand même que l'expropriation est d'utilité publique. Et ça, c'est pas gagné. Ça sera notre combat, entouré bien évidemment de tous les amis, mais le combat personnel est entouré de toutes les structures qui veulent bien nous donner la main, la Confédération paysanne, l'association Sauvegarde qui s'est créée à cette occasion, l'association de défense des propriétaires et la FRAPNA, enfin tous ceux, toutes les bonnes volontés qui veulent bien dire stop au projet de fou.
Mais moi je suis viticulteur dans le sud de l'Ardèche. Et à ce titre, je me sens très concerné par le problème de Saint-Alban. Fanny, tout à l'heure, a évoqué la notion de propriété privée à laquelle on devait et on souhaitait, chez nous, à la Confédération paysanne, opposer le droit d'usage. J'ai entendu tout à l'heure Jean-Louis Chopin dire « La terre nous appartient ». Effectivement, elle n'appartient pas qu'aux paysans. La plupart du temps, ils n'en sont pas propriétaires. Ça ne les empêche pas de la travailler avec un mot grossier. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le droit de propriété qui est issu de la Révolution française a besoin d'être rénové et accompagné du sens du collectif et du bien collectif. Il y a beaucoup de choses à inventer. Il y a un outil qui existe depuis les années 60 qui s'appelle la SAFER et qui ne remplit plus son rôle pour plusieurs raisons, pour des raisons de fonctionnement interne, de son statut primitif qui donne à la profession des professionnels autoproclamés, à savoir la FNSEA, le droit de gérer en toute confidentialité les questions de cession de terre. Donc ça, c'est à réformer, mais ce qu'il faut aussi arriver à faire, c'est que la collectivité nationale, a fortiori, donne des moyens financiers à la collectivité pour que des réserves foncières soient constituées en opposition à une utilisation mercantile et spéculative. Voilà. Donc c'est un élément de la réflexion, je crois, sur laquelle il va falloir qu'on travaille et qu'on progresse. Donc on va continuer notre demi-journée par un pique-nique. Donc on va retourner, je pense, là-bas. Et on a prévu toutes sortes de breuvages issus de la terre et qui lui font honneur. Voilà. Et on va les partager ensemble.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Voilà, on vient de s'écouter Victor Jara avec le morceau A Desalambrar. Et avant, c'était un reportage sur le 17 avril en Ardèche, sur Radio Canu. Maintenant, on va passer à une autre action récente. En avril, il y avait une semaine d'appel à la solidarité avec les habitants et habitantes du Val Susa en Italie, donc qui luttent activement depuis plus de 15 ans déjà contre le projet inutile et nuisible de TGV Lyon-Turin, donc le TAV, comme on dit là-bas. Et parmi les actions de solidarité, il y a eu un don de semences de pommes de terre pour à la fois des paysans et paysannes là-bas et les personnes en lutte pour pouvoir nourrir la lutte. Donc le son est un peu pourri, on est désolé. Et ça a été fait par téléphone et le son n'est pas très bon. Mais voilà, c'est un petit entretien téléphonique qu'on écoute tout de suite.
Lors d'une rencontre de Réclame de Fils en Italie fin février en Val Susa, où en fait suite à un événement un peu dramatique de la chute d'un paysan au Val de Suse, d'un pilonnet électrique du cher, on s'est dit tiens, comment on pourrait faire une action de solidarité pour à la fois symbolique et puis pour aider Luca Abba qui était à l'hôpital à ce moment-là. Un ami italien a dit qu'on aurait pu réaliser une action de solidarité en amenant des semences de pommes de terre pour à la fois soutenir les gens pendant les occupations, soutenir les gens en les alimentant avec des pommes de terre, et puis aussi pour marquer symboliquement qu'il y avait d'autres paysans qui soutenaient les habitants Val-de-Sud. Suite à ça, on a essayé de chercher en France qui pouvait nous aider à donner des semences de pommes de terre. On a trouvé une ferme dans le Morbihan qui produit des pommes de terre en agriculture biologique. Et donc elle nous a donné une centaine de kilos de semences. Donc en fait, il y a eu une logistique qui a été organisée pour amener donc les semences du Morbihan jusqu'en Val-de-Sud. Donc elles ont été amenées pendant une semaine où c'était une semaine d'action qui a été proposée par le comité notable, hein, qui était une semaine d'action début avril. Du 10 avril jusqu'au 17, je crois. Et donc on a acheminé les semences le 11 avril en Val-de-Souza, où il y avait à ce moment-là une journée de manifestation. On est arrivé pendant un moment un peu particulier parce que c'était au moment où une dame s'était attachée au grillage d'un quartier de la Baïta pour dire que elle n'était pas d'accord de se faire exproprier de ce quartier. Cette dame, c'était une propriétaire de cette zone-là, qui a été emmurée pendant les événements là en mars. Donc, on est arrivé dans un contexte un peu habituel en Val-Souza, qui est d'assemblée populaire sur le monde. Et donc là, on a demandé qui était intéressé pour semer ces mousses de pommes de terre. On avait décidé de... En fait, il y a eu un petit changement de programme, parce que Kaba était resté à l'hôpital, donc il ne pouvait pas planter ses semences, et il avait demandé plutôt que les semences aillent aux habitants de la vallée. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui ont été intéressées pour semer des pommes de terre. Donc dans la vallée, on a donné des semences donc au Presidio Fenaos. On a donné un petit peu aussi sur place et puis un petit peu à Turin également. Donc on n'a pas pu rester pour la plantation, mais elles ont été plantées et après on a attendu qu'elles poussent.
D'accord. Et je ne sais pas si tu vois autre chose à rajouter du coup sur cette action, enfin si ça a donné des envies de recommencer ailleurs de ce type d'action, s'il y a d'autres choses de prévues.
Pour le moment, en fait, tout ça, il n'y a pas forcément d'autres choses qui sont prévues. Après, ce type d'action, il est fait surtout pour venir en solidarité à des personnes qui luttent contre des projets qu'on appelle et à Béant. Ce type d'action, il est à Notre-Dame-Béant, qui est assez couramment utilisé, qui est d'amener des semences ou des plantes pour soutenir les jardins occupés, pour soutenir les gens qui restent et qui luttent sur place. Voilà.
Fortunatamente la giustizia di un sistema come il nostro mette in galera la vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.
Piazza del Duomo ce la mette illuminata, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune ne ha le mani. Piazza
Radio Canu, on vient de s'écouter La Benda Bassotti avec le morceau Luna Rosa. Juste avant, c'était un reportage sur un entretien sur une action de solidarité avec la lutte du Val de Souze dans le nord de l'Italie contre le projet de train à grande vitesse Lyon-Turin, lutte qui continue encore et toujours et qui sait peut-être aussi démarrer un peu plus fort de ce côté-ci des Alpes, peut-être. On en parlera dans l'agenda tout à l'heure. Maintenant, quelques petites infos en vrac, d'autres actualités. D'actualité de politique aérie d'abord, un nouveau gouvernement, même si ça a pas beaucoup d'importance dans cette émission. On peut quand même noter qu'il y a un nouveau ministre de l'Agriculture qui a été recommandé avant sa nomination par Xavier Belin lui-même, grand directeur d'une filière de biogaz lucrative et aussi président du principal syndicat des exploitants agricoles. Donc voilà, qui avait recommandé ce Stéphane Le Foll, donc le nouveau ministre de l'Agriculture. Donc c'est pas très bon signe forcément, mais voilà. Et puis un autre nouveau ministre très concerné par l'agriculture, Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes et grand vendeur de terres agricoles pour faire des aéroports et des ronds-points. Jean-Marc Ayrault qui maintenant est Premier ministre. Il a failli pas être Premier ministre apparemment parce que c'était une petite épine dans son pied, cet aéroport qui n'en finit pas de ne pas se faire. Et donc justement l'actualité c'est qu'il y avait des personnes en grève de la faim en avril et début mai par rapport à ce projet d'aéroport dont on a déjà pu parler plusieurs fois ici à Notre-Dame-des-Landes et donc ces personnes en grève de la faim ont arrêté leur grève de la faim parce que le Parti Socialiste local avait signé un moratoire comme quoi les expropriations de paysans et paysannes ne reprendraient pas, enfin seraient suspendues jusqu'à la fin des procédures judiciaires en cours. Donc c'est pas une victoire totale parce que il y a toujours des expulsions de squatteurs, de locataires et le projet d'aéroport est toujours pas enterré, mais par contre c'est quand même une première victoire parce que ça permet à certaines personnes en lutte de souffler un petit peu, parce qu'il y a moins de gens concernés immédiatement par les expropriations. Un premier pas en arrière peut-être. Ça donne envie de soutenir encore et toujours ces personnes qui luttent contre l'aéroport pour qu'il ne se fasse jamais. D'autres actus un petit peu, on aura l'occasion de reparler plus en détail peut-être quand on aura plus de temps de Somonte en Andalousie. Donc on avait parlé un petit peu de ces milliers d'hectares de terres agricoles qui appartiennent au gouvernement andalou et qui voulaient mettre en vente à des investisseurs étrangers, pour étrangers ou pas d'ailleurs, mais à des investisseurs privés pour spéculer sur la terre agricole, pendant que la majorité des habitants de l'État et des habitantes de l'État espagnol n'ont rien à manger et n'ont pas de salaire. Donc il y a des journaliers, journalières agricoles du syndicat des ouvriers agricoles andalou, donc le SOC, Sindicato de Obreros del Campo, qui ont occupé cette finca Somonte dans la province de Cordoba le 4 mars. Et ils ont tenu jusque à fin avril, où ils ont été expulsés plutôt violemment par la Guardia Civile. Et puis ils ont réoccupé début mai cette finca Somonte. Donc ils l'expliquent un peu dans leurs différents communiqués, que à l'heure actuelle, vu la situation de crise dont tout le monde parle en long, en large et en travers, et notamment pour les habitants de l'État espagnol, dans ce contexte de crise, accéder à la terre pour pouvoir produire soi-même sa nourriture, surtout quand on est au chômage, c'est quand même un moyen, un des meilleurs moyens. Et puis, ce qui rappelle surtout, c'est que la terre doit aller à celles et ceux qui la travaillent, et pas à des investisseurs qui vont spéculer sur ces terres. Donc, il n'y a pas de nouvelles très très récentes là, mais on essaiera d'en reparler un peu plus tard de cette expérience de Somonte. Dernière petite info, peut-être. Des problèmes au niveau des coopératives de lait de chèvre en Rhône-Alpes, avec une direction qui, donc notamment à la coopérative de Cray dans la Drôme, avec un prix du lait qui a baissé pour les paysannes et les paysans, et puis une direction qui parle de restructuration, qui fait baisser le prix du lait. Enfin, donc on essaiera d'en parler peut-être plus en détail, mais en tout cas voilà une situation où d'un côté des paysannes et paysans ne sont plus payés pour leur production, et de l'autre des salariés vivent sous la menace permanente d'être licenciés. Et y a des gens au milieu qui doivent bien en profiter à un moment. Voilà, c'est pas tout à fait la fin de l'émission encore. On va s'écouter un petit morceau et puis après on reviendra pour l'agenda.
And manifest the day. blow words between the sucker's teeth and bind these panicked hands. Loose your heart like a clumsy bell.
Pour quelques minutes encore, et on vient de s'écouter Horses in the Sky de A Silver Moon Zion. Voilà, donc on passe à l'agenda. L'agenda, première info, la sortie toute récente d'un film sur l'identification électronique des troupeaux, dont on avait déjà parlé, et bien plus que ça aussi, donc sur l'industrialisation de l'élevage en général. Voilà, c'est sorti, ça s'appelle Mouton 2.0, la puce à l'oreille, et puis on va s'écouter la bande-annonce tout de suite, en fait.
On passe beaucoup de temps hein, à observer les bêtes, à regarder. L'élevage industriel, ils disent que tout ce lien, c'est de la sensiblerie. Et c'est pas vrai.
Depuis le 1er juillet 2010, on est obligé de pucer électroniquement toutes les bêtes qui ont plus de 6 mois et qui sont destinées à l'élevage et à l'abattoir. On ne voit pas pourquoi ils veulent nous faire remettre des puces électroniques. On les soupçonne de.
Il faut développer des gadgets de traçabilité, etc., pour dire nous, on a fait tout ce qu'il faut au niveau sanitaire. Alors ça, c'est le côté des pouvoirs publics. Et après, bien sûr, comme partenaire, ils trouvent des entreprises qui demandent que ça, vendent des puces, vendent des vaccins, vendent tout ce qu'on veut.
J'ai pas choisi ce métier pour avoir des brebis avec des boucles électroniques qui vont passer, qui vont faire bip, qui vont s'afficher dans mon ordinateur, etc.
Les technocrates de Bruxelles sont en train de nous apprendre comment mener un troupeau. Et ça, on ne veut pas se laisser faire parce que notre troupeau, c'est notre vie, quoi. C'est un peu comme à comparer, mais c'est comme des enfants, quoi.
c'est la volonté de la contrôle totale. Là, c'est pour les bêtes, mais aussi, je pense que mentalement, ça veut dire contrôler tout, quoi, y compris la société. Quoi.
On est parti pour un combat, quoi. C'est pas juste un métier, quoi. C'est un combat, quoi.
Voilà la bande-annonce de Mouton 2.0, la puce à l'oreille. Pour le voir, demain, vous pouvez aller le voir à Vacherenquin, donc dans la Drôme. Ce sera à 19h à la menuiserie de Vacherenquin. Ensuite, samedi à Serres, dans les Hautes-Alpes. Ensuite, mardi le 29 à Mirabel et Placon, toujours dans la Drôme. Le 30 mai à Grenoble au Bas-Côté. Le 31 mai à Mince à l'Espace Culturel, donc dans l'Isère. Le 1er juin à Mézieux au Festival Temps Libre, donc dans le Rhône. Le 2 juin à Lyon pour la Nuit du Cinéma Militant à la MJC du Vieux Lyon. Le 5 juin à Annecy, à Cran-Gévrier exactement, à l'Alter Local. Le 9 juin à Royères-de-Vassivière, le 6 juillet à Foix, le 24 août à Trécloux, et puis n'hésitez pas à aller sur le site mouton-lefilm.fr pour organiser des projections un peu partout, c'est possible et c'est fait pour. Voilà, d'autres dates à retenir avant de se quitter. Ce week-end à Dijon, donc on a j'ai pas les infos sous les yeux là, mais le 26 donc à Dijon, il y a une action de soutien pour les terres agricoles qui disparaissent sous le béton. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Brassica Nigra, donc site d'information de Dijon et sa région. Toujours ce week-end, les 26 et 27 mai, il y a le festival Les Arts dans le même panier, donc un festival itinérant qui passe sur des fermes toutes les années. Et donc là, c'est la première étape pour cette année 2012. Ce sera à la ferme collective de Caracol de Suc à Saint-Laurent-du-Pape, donc dans la vallée de l'Eyrieux. Pour avoir toutes les infos, le détail, vous pouvez aller sur le site de l'association qui organise Les Arts dans le même panier, donc qui s'appelle Court Circuit. Donc c'est CourtCircui. Voilà, donc court-circuit tout attaché.com. Et puis du coup, il y aura des concerts, du théâtre, des bals folk, un marché paysan, de la sérigraphie, à manger, à boire, un infokiosque, une assemblée populaire et plein de choses. Ensuite, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le camp de Décines, le camp de résistance au projet d'OL Land, au projet de grand stade de l'OL, donc à Décines, à côté de Lyon. Voilà, vous pouvez passer les voir quand vous voulez. Il y a toujours des gens qui occupent le terrain pour résister au grand stade. Et puis, il y aura un grand événement fin juin, le 30 juin, donc on en reparlera d'ici là. Sinon, en bref, du 7 au 11 juillet à Notre-Dame-des-Landes, il y aura le Forum européen contre les grands projets inutiles imposés. Donc c'est la deuxième édition, la première c'était dans le Val-sous-Arpe justement. Il y aura une manifestation le 9 juin à Chambéry contre le projet de TGV Lyon-Turin justement. On en reparlera certainement d'ici là. Et puis à retenir dans très longtemps. Le 4 octobre, il y aura le procès des 9 inculpés de la grève du lait à Saint-Étienne. Donc 9 inculpés par la Chambre d'agriculture et les organismes professionnels agricoles qui risquent 116 000 euros d'amende et de dommages et intérêts pour avoir déversé du lait dans la maison de l'agriculture. Donc leur procès, le 4 octobre, date à retenir. Voilà, et puis sinon, par rapport à Radio Canu, le 30 juin, il y aura aussi un événement à Lyon. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Et puis, si vous avez des infos à faire passer, des choses comme ça, vous pouvez nous contacter. Lutte paysanne, tout attaché au pluriel, @riseup.net. Voilà, et puis vous pouvez toujours aller sur le blog au pluriel, /luttepaysanne pour écouter les anciennes émissions et avoir plus d'infos. Voilà, et tout de suite c'est le Canu Info. Bonne soirée sur Radio Canu.
devenu quelque sorte de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait
30
ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse la mort mourir.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire, en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires. Et en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans, la tête lourde.
Les paysannes et paysans dans la